Your favorite enemies, en parfaite communion à Sentier Secret, mardi 20 janvier, etc.
Vous possédez une carte de membre de CKRL?
Économisez 10% à chaque fois que vous faites un achat au Centre de yoga de Québec, 1355 3e Avenue. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique.
89.1.
Bonjour à tous et bienvenue au Grain de Sable, votre magazine socio-économique dans lequel on parle de ce qui se passe ici et aussi d'ailleurs. Une émission réalisée par le collectif radio de l'Association québécoise pour la taxation des transactions financières et l'action citoyenne Attaque Québec. Cette semaine, nous allons parler du rôle traditionnel de la police, de fiscalité municipale, d'économie verte et de démocratie. Et oui, dans les 60 minutes que nous avons devant nous, on a essayé de vous concocter un cocktail d'informations pour mettre votre cerveau en ébullition. On a même invité Catherine Caron, d'Attaque Québec, à nous parler des projets de l'association pour l'année à venir. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti! On va commencer d'abord par discuter avec Étienne d'un sujet matraque, les fonctions répressives de la police. C'est pas un sujet qui est abordé comme tel par Attaque en général. C'est pas non plus le point de vue de l'association que la police n'est qu'une fonction répressive, sauf que c'est un outil qui permet à l'État de maintenir le monopole de la violence sur un territoire, comme le dit le politicologue Charles Tilly. Étienne va donc soutenir que la police est une fonction répressive depuis l'ère industrielle et il explique pourquoi, histoire de nous donner matière à débat dans nos chaumières. Et d'ailleurs, un petit débat va forcément surgir puisque tout le monde n'est pas d'accord sur cette question ici. Vas-y, Étienne.
Oui, je commence. Si j'en parle aujourd'hui et peut-être dans les prochaines semaines, on verra, c'est parce qu'il y a des débats actuellement aux États-Unis. C'est à cause de ce qui s'est passé avec la police et finalement des personnes qui ont été tuées, là, souvent des jeunes hommes noirs qui ont été abattus par la police. Alors, il y a vraiment une ébullition dans la réflexion des Américains sur le rôle de la police dans la société. Une chose intéressante que j'ai croisée, c'est une histoire de la police. Parce que la police, elle est apparue, en fait, dans une période de temps très rapide dans tout le monde anglo-saxon. En fait, les polices qui travaillent pour le gouvernement, c'est apparu dans une période qui va environ de 1825 à 1855. Ils sont apparus dans les grandes villes des États-Unis, dans les grandes villes d'Angleterre. Et en fait, ils sont apparus conjointement avec les premières, je dirais, grandes manifestations syndicales. On voit vraiment que ça s'est produit dans la même période. C'est qu'en fait, moi je vais parler du cas anglais, là. Dans le cas anglais, ça suit la formation du capitalisme essentiellement. Il y a des grandes usines, il y a beaucoup de travailleurs qui s'accumulent dans des quartiers assez pauvres, assez mal équipés, pour ce qui est des infrastructures. Alors, leur vie est extrêmement brutale, dure. Donc, finalement, ils réagissent. Ils réagissent des fois en émeute, en manifestation, en réunion. Et il faut se dire que le marxisme commençait à se répandre à cette époque-là aussi, à se discuter dans ces milieux-là. Alors, finalement, les classes riches capitalistes craignaient les grands rassemblements comme ça dans les rues. Et vers la fin du... La fin du 18e siècle, il y avait tendance à appeler l'armée. Donc, l'armée allait s'attaquer à ces manifs-là de civils. Et ça a donné des cas comme, par exemple, en 1819 à Manchester, ce que le monde a appelé le massacre de Peterloo. Ça, c'est l'armée anglaise qui a chargé une foule de 80 000 personnes et qui a fait des dizaines de morts. Alors, ce qui se produit quand il y a des actes comme ça, eh bien, l'histoire retient ces actes-là comme des massacres, finalement. Alors, ça ne stoppe pas le mouvement ouvrier. Au contraire, il se sent encore plus opprimé. Et les manifestations suivantes sont encore plus grosses. Parce que une armée qui charge contre des petites foules, on peut comprendre qu'elle se disperse et qu'elle passe à autre chose. Mais quand on atteint des grands nombres comme ça, 80 000, c'est pas ça qui finit par résorber le mouvement ouvrier et les grandes manifs. Alors, il fallait un nouveau modèle que l'armée. Alors, les administrateurs ont plus eu tendance à avoir essayé de trouver, finalement, de créer une nouvelle catégorie sociale des personnes qui travailleraient pour l'État et qui réprimeraient les ouvriers ou les classes populaires, mais plus au quotidien, plus en allant dans leur quartier, en se dispersant à travers la ville pour surveiller les ouvriers, finalement, quand ils vaquent dans leurs occupations pendant tous leurs moments de temps libre, pour surveiller, voir qu'est-ce qu'ils font, les disperser lorsqu'ils se réunissent dans la rue par dizaines de personnes qui discutent. Ça peut être dangereux, peut-être qu'ils discutent de marxisme, on ne sait jamais. Alors, finalement, on passe d'un modèle où c'était auparavant l'armée qui chargeait contre les foules, et là, c'est la police qui, dans le cas londonien, sont équipés de matraques. Alors, ça ne crée pas des massacres comme ça arrive quand c'est l'armée qui charge contre les foules. C'est plus des policiers qui ont des armes plus légères pour opprimer d'une manière un peu moins évidente.
Étienne, moi, ma question, j'en ai plusieurs. Qu'est-ce que ça change de savoir ça?
Ben, en fait, c'est de savoir que ça... qu'il n'y a pas du tout eu dans cette période-là où la police est apparue dans les villes, là, il n'y a pas eu du tout de croissance du crime. C'est pas une réponse au crime, la création de cette idée-là d'une force policière. C'est vraiment pour la gestion des foules. C'est pour éviter que les gens se réunissent dans les rues, dans les parcs, qu'ils discutent. Bref, c'est comme pour nier aux populations, pas aux riches, là, je parle vraiment aux personnes plus pauvres, le droit de profiter des espaces publics, mais le droit de socialiser à l'extérieur.
Mais c'était pas mieux avant, dans le sens que avant, ça serait, c'était plus des soldats qui faisaient ce genre de travail-là. Puis même dans certains pays aujourd'hui, la distinction entre l'armée et la police n'est pas faite. Puis dans les démocraties modernes, en tout cas en 2014-2015, il y a un rôle qui est donné à la police maintenant qui est quand même différent, là. Je suis d'accord qu'il y a de la répression. Là. Si je résume ça dans une phrase, là, la police a comme un rôle double qui cause problème. D'un côté, c'est... je prends un exemple. Là, il y a beaucoup d'appels de violence conjugale. Donc, c'est en quelque sorte des intervenants et intervenantes dans beaucoup de cas de tentatives de suicide, violence conjugale, conflits entre les gens. Ça, c'est le rôle positif de la police, qui est une force qui peut servir à arrêter la violence. D'un autre côté, il y a le paradoxe que les forces policières ont tendance à obéir au gouvernement, alors qu'ils sont censés servir la loi et protéger le citoyen. Souvent, quand le gouvernement donne un ordre, la police a tendance à obéir. Donc, en situation de conflit social, comme disons avec les grosses manifestations en 2012, tout du coup, il y a quelque chose de confus, ou que la police, c'est plus clair qu'elle sert les lois. On dirait des fois qu'elle se met à servir des forces politiques, finalement.
Oui, bien, c'est ça, cette idée-là d'être au service du citoyen, de la paix, ou c'est ça, de la loi, ça peut avoir un certain aspect factice quand on considère l'histoire et qu'on voit qu'ils ont été expressément... créé en réaction à des émeutes qui ont finalement effrayé les
quartiers.
Mais
plutôt dans une société anarchiste.
Ou libertaire, disons.
Quel serait le rôle? Y aurait-il des forces policières, selon toi?
En fait, il y a eu divers fonctionnements. Si je prends un exemple, par exemple, très ancien, dans la Grèce antique, en fait, il n'y a pas de... Par exemple, à Athènes, il n'y a pas de forces policières. Il y a simplement des personnes qui gèrent les assemblées. Et qu'admettons, quand quelqu'un est trop hué par ce qu'il dit dans une assemblée, dans une de démocratie directe, finalement, il y a des personnes pour l'expulser, mais il y a pas de besoin de personnes qui a comme...
Donc, dans une société anarchiste, il n'y a pas besoin de police, c'est ça que tu me dis?
Ben, je suis pas d'accord.
C'est pas ça que je dis non plus. Mais, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu diverses formes de police ou de forces comme ça à travers l'histoire, qu'il faut considérer ça.
Mais ça, ben, je pense que ça prend une force d'intervention, intervention sociale ou intervention humaine, je parle. Hein. Je parle pas de répression des manifestations. Là. Exemple, là, j'avais une voisine qui était en train de mourir d'une overdose de drogue, par exemple. Les ambulanciers aiment que la police arrive en premier ou avec eux pour les sécuriser en cas de violence ou en cas de... Bon. Donc, je pense qu'il y a... Dans ce cas, il y a des millions d'exemples qu'on pourrait se donner. Malheureusement, ça prend souvent des gens qui sont formés de manière professionnelle pour intervenir en situation de crise.
Est-ce qu'il y a un lien avec le prochain sujet de la fiscalité municipale? Parce que la police, c'est beaucoup le palier municipal qui l'a mis sur pied. Oui. D'ailleurs, je me demandais si les premières polices, c'était pas des polices privées.
Des milices?
C'est des milices. On a par exemple le cas du sud des États-Unis où très tôt, il y avait des milices montées qui visaient à finalement voir... Lorsque les esclaves noirs s'accumulaient en trop grand nombre pour socialiser, par exemple, ils étaient là pour leur faire peur et les disperser. C'est vraiment pour créer un climat de peur dans le cas du sud des États-Unis. Ou, comme je dis, dans les villes du nord des États-Unis ou de l'Angleterre, c'était pour disperser les ouvriers.
Mais dans le code de déontologie des policiers du Québec, il y a un rôle de prévention aussi. Je ne sais pas depuis quand existe ce code de déontologie-là. Je ne sais pas si quelqu'un le sait. Je n'ai pas trouvé la réponse. Mais ce que je vois, c'est qu'il y a eu quand même une évolution du rôle de la police, peut-être depuis, depuis ses origines. C'est certain qu'ils ont le monopole de la violence légitime. Mais il y a quand même un rôle de prévention qui se rapproche un peu du travail de rue, qui peut-être à travers les décennies change en fonction du climat social.
D'ailleurs, en passant dans le quartier Saint-Roch, on a diminué l'intervention des policiers, ça a causé des problèmes. La police de rue, la police qui intervient avant pour voir qu'est-ce qui se passe, puis essayer d'aider les gens finalement. Ces policiers-là ont été... En fait, ça a été passablement diminué et ça a posé des problèmes. Mm-hmm. Je pense que la police, c'est pas uniquement de la répression, effectivement.
Donc, on va continuer parce qu'Étienne veut en reparler à la prochaine émission. On va pouvoir continuer la discussion avec un peu plus de perspective. Prochain sujet.
Il y a une chanson?
Oui, Michael, tu voulais nous... Ah oui, c'est vrai, je m'excuse.
Oui, Michael a une chanson à nous faire jouer.
Tu nous as sorti La bottine souriante, Le démon sort de l'enfer.
Oui, chanson amusante. Vous allez voir, ça fait un peu la chanson fait un pont surprenant de manière entre le passé et le présent. Et il aborde plusieurs thèmes, je pense, qui vont bien avec l'émission.
Le démon sort de l'enfer pour faire le tour du monde.
Envoyé par Lucifer pour appoyer son monde.
Envoyé par Lucifer pour appoyer son monde.
Il dit toi mon cordonnier, tes bottines sont mal semelées. Avec tes méchantes coutures, embarque dans ma voiture.
Avec tes méchantes coutures, embarque dans ma voiture.
Le démon sort de l'enfer pour faire le tour du monde. Lucifer pour appuyer son monde.
Envoyé par Lucifer pour appuyer son monde.
Et dis-toi, mon petit boucher, ta viande est avariée. Ton boudin goûte rien que le sûr, embarque dans ma voiture.
Ton boudin goûte rien que le sûr, embarque dans ma voiture.
Le démon sort de l'enfer pour faire le tour du monde.
Le démon sort de l'enfer pour faire le tour du monde.
Envoyé par Lucifer pour appuyer son monde.
Envoyé par Lucifer pour appuyer son monde.
Et dis-toi, mon mécanicien, tu changes des pièces pour rien. Avec toutes tes grosses factures, embarque dans ma voiture. Et dis-toi, mon violonneux, tu joues des airs de petit vieux. Avec toutes tes fioritures, embarque dans ma voiture.
Avec toutes tes embarque dans ma voiture.
Et dis-toi, mon gros routier, tes histoires sont mal famées. Avec toutes tes aventures, embarque dans ma voiture.
Avec toutes tes aventures, embarque dans ma voiture.
Oh, le démon sort de l'enfer pour faire le tour du monde.
Le démon sort de l'enfer pour faire le tour du monde.
Envoyé par Lucifer pour appuyer son monde.
Envoyé par Lucifer pour appuyer son monde.
médecins. Tes patients sont mal en point. Avec toutes tes piqûres, embarque dans ma voiture.
Avec toutes tes piqûres, embarque dans ma voiture.
Le démon sort de l'enfer pour faire le tour du monde.
Le démon sort de l'enfer pour faire le tour du monde.
Envoyé par Lucifer pour appuyer son monde.
Envoyé par Lucifer pour appuyer son monde.
Toi, mon petit curé, tes sermons sont démodés. Avec toutes tes parures, embarque dans ma voiture.
Avec toutes tes parures, embarque dans ma voiture.
Et dis-toi, mon policier, t'es pas tanné de nous gazer. Avec ta maudite clôture, embarque dans ma voiture. Toi, mon avocat, tu me cherches des tracas avec toutes tes procédures.
Embarque dans ma voiture.
Et toi, mon sénateur, tu te fous bien des électeurs et du haut de ta stature.
Embarque dans ma voiture.
Toi, pis ton ordinateur, tu voles tous les droits d'auteur avec toutes tes gravures.
Embarque dans ma voiture.
Et toi, mon forestier, nos forêts sont dévastées avec toutes tes scieux.
Dans ma voiture.
Et dis-toi, mon gros banquier, t'arrêtes pas de nous faire payer tes profits n'ont pas d'allure.
Dans ma voiture.
Et dis-toi, mon journaliste, avec ton sensationnalisme et puis toutes tes censures.
Dans ma voiture.
Et dis-toi, mon PDG, tu méprises tes employés avec toutes tes fermetures.
Dans ma voiture.
Et dis-toi, mon politicien, tes promesses ne valent rien. Avec toutes tes coupures, embarque dans ma voiture. Non, jouez, mon du père, retourne dans ton trou, moi qui va pas. Non, jouez, ok.
Ah, toute une chanson.
La bottine souriante, le démon sort de l'enfer. Comme je disais à Michel, ce que j'aime de la bottine souriante, c'est qu'ils réussissent toujours à faire un pont entre la tradition puis la modernité.
Ouais.
C'est intéressant, en tout cas, d'écouter ça. On est en onde. Là, il y a quelqu'un qui est avec nous, hein? Évelyne Couturier.
Bonjour.
Bonjour. Je vais passer le micro à Michel qui va animer cette chronique-là.
Bonjour, Évelyne.
Bonjour.
Évelyne, cette semaine, je suis tombée, j'ai reçu en fait parce que, bon, faut que je le dise, je suis membre aussi de l'IRIS, tout le monde peut devenir membre de l'IRIS en passant, et j'ai reçu donc l'information, votre note socio-économique sur la fiscalité municipale, vous vous demandez si on peut faire mieux, et je l'ai lu, j'ai trouvé fort intéressante, mais dans un premier temps, j'aimerais ça qu'on règle quelque chose. Souvent, les gens vont se dire, parce qu'ils sont à logement, « Bon, la fiscalité municipale, ça me regarde pas, moi. » Mais en réalité, ça touche tout le monde, la fiscalité municipale. Puis quand il y a des hausses de taxes municipales, ça touche tout le monde, n'est-ce pas?
Absolument, parce que dans la loi sur les loyers, pour les hausses de loyers, c'est quand même réglementé, mais les propriétaires peuvent transférer 100% de la hausse des taxes municipales, de leur compte de taxes municipales, sur le loyer, sur la hausse de loyer. Donc, là, absolument toutes les personnes qui habitent dans une ville vont contribuer à la fiscalité municipale, vont contribuer aux taxes municipales. La différence, vraiment, c'est on ne reçoit pas le taxe de compte municipal quand on est locataire, donc on ne voit pas nécessairement directement quelle est la portion qu'on paie, mais qu'on soit en logement ou qu'on soit propriétaire, tout le monde paie des taxes municipales.
Voilà, si on conteste devant le registre du logement, il n'y a rien à faire, c'est ça que je comprends. L'autre dimension qui m'a frappé aussi dans votre étude, que vous avez souligné dans votre étude, c'est que les municipalités ont intérêt à ce que les logements soient transformés en condos.
Absolument, parce que présentement, la manière que ça fonctionne, la fiscalité municipale, c'est que leur seul outil fiscal, ils peuvent charger des tarifs, il y a des amendes, ils reçoivent des transferts provinciaux, mais leur seul outil fiscal, c'est la fiscalité municipale, c'est l'impôt foncier. Donc, par l'impôt foncier, on parle de la valeur des immeubles. Alors, si on prend un immeuble à logement, il y a un seul compte de taxes, mais si on a des condos, chaque local, individuel, chaque appartement individuel devient un compte de taxes séparé qui prend de la valeur séparément. Et donc, on est capable de rapidement faire beaucoup plus d'argent en ayant une augmentation de la valeur immobilière. Donc, ça devient un peu un intérêt pour la ville, on appelle ça de l'urbanisme fiscal. de mettre en place des réglementations qui vont favoriser l'augmentation des valeurs du parc immobilier. Bien entendu, il y a plusieurs lobbies de locataires, par exemple, ou des personnes qui travaillent en urbanisme, qui vont mettre en place certaines balises pour essayer de freiner la conversion en condo. Mais il reste quand même que du côté de la ville, simplement sur le plan de l'argent, de leur budget, de leur financement, augmenter la valeur du parc immobilier, donc transformer en condo, ben ça, c'est à leur avantage.
Ouais, c'est un peu difficile pour les municipalités, autrement dit, parce qu'elles sont prises pour tenter d'aller chercher le plus possible d'augmentation de la valeur foncière pour augmenter leur source de revenus. En gros, si je vous le demandais, qu'est-ce qui ne va pas avec la fiscalité municipale?
Mais c'est ça l'affaire, c'est qu'il y a vraiment un seul recours pour pouvoir aller chercher de l'argent chez les résidents et les résidentes, c'est-à-dire la taxe foncière. Donc vraiment, ça les amène à faire certains choix pour l'urbanisme que ce soit le zonage ou sur la conversion en condo. Donc cet incitatif-là à aller vers des décisions qui vont augmenter la valeur foncière fait que dans plusieurs villes, parfois, il y a des décisions qui sont prises qui ne sont pas à l'avantage des résidents et des résidentes, mais plus à l'avantage du parc immobilier. Et quand on regarde, par exemple, les problèmes de démocratie ou de corruption qu'il y a eu dans les dernières années, bien, on peut voir aussi qu'il y a un certain lien avec cet urbanisme fiscal-là, parce que les élus avaient intérêt à s'entendre avec les développeurs immobiliers et les développeurs immobiliers à essayer de pousser un peu la ville pour pouvoir mettre en place quelque chose qui était gagnant-gagnant dans leur cas, c'est-à-dire du côté de la ville, mettre en place des chantiers pour immobilier qui vont leur apporter beaucoup d'argent parce qu'ils vont pouvoir le taxer sur la taxe foncière. Et du côté des promoteurs immobiliers, bien des contrats lucratifs pour pouvoir construire des maisons sur des terrains qui pourraient avoir une bonne valeur.
Et ça, c'est un impact environnemental aussi parce que ça force à peut-être construire davantage et étendre davantage même l'étalement urbain, tout ça?
Absolument. Puis on regarde un peu ce qui s'est passé à Laval avec une construction quand même assez importante de centres d'achat et de stationnement, mais tout ça fait partie de ce climat-là d'urbanisme fiscal.
Oui, effectivement. Je disais dans votre étude que d'ailleurs que ça favorise davantage les centres commerciaux plutôt que les petits commerces, les commerces de proximité dans les quartiers.
Exactement. Les grandes surfaces vont avoir beaucoup plus une valeur plus importante, un terrain beaucoup plus important, alors que les petits commerces, souvent, se retrouvent aussi pris à la gorge parce que le compte de taxes augmentant à cause de cette spéculation immobilière-là, ils peuvent, comme les raisons aussi, on pense souvent aux personnes âgées qui pourraient se faire remettre dehors de la maison qui ont fini de payer, mais c'est aussi le cas de jeunes familles qui s'achètent une maison pour laquelle ils ont les moyens de payer, mais avec l'augmentation des taxes à chaque année, avec l'augmentation de la valeur de leur maison, dont ils ne sont pas responsables parce que c'est souvent les maisons autour ou le quartier qui prend la valeur et qui fait augmenter la valeur de leur maison, leur projet de propriété peut tomber à l'eau à cause simplement de la façon que la fiscalité municipale fonctionne.
Oui, ça, c'est un aspect de votre étude qui est assez intéressant. Il y a un graphique, d'ailleurs, on le regarde et on se dit, wow, c'est la différence entre l'augmentation des propriétés foncières et la capacité de payer, finalement, les revenus, l'augmentation des revenus moyens des familles. C'est vraiment, on peut dire que ça tient absolument pas compte de la capacité de payer.
Absolument pas. Puis, on a regardé la situation particulièrement à Montréal avec les arrondissements. Et certains arrondissements comportent des quartiers un peu plus pauvres et des quartiers un peu plus riches, mais sont taxés sur la valeur foncière de la même manière, ce qu'on appelle un peu un flat tax, c'est-à-dire un taux unique. Ouais. Donc, les personnes qui ont moins d'argent, qui ont une maison qui vaut moins cher, vont être taxées de la même proportion que une famille dans un quartier connexe qui a beaucoup d'argent et une maison qui vaut beaucoup plus cher. Donc, il n'y a pas de réflexion sur la capacité de payer, simplement sur la valeur des maisons et à travers ça, pas de réflexion sur le contexte pas fiscal, mais le contexte économique dans lequel on est qui encourage la spéculation immobilière, comme on a pu voir tant au Canada qu'aux États-Unis.
Il reste 3 minutes, Evelyne. J'aimerais qu'on en vienne aux solutions. Vous avez un certain nombre de solutions que vous proposez.
Oui, mais en fait, on s'est dit, bon, là, la manière que la fiscalité municipale fonctionne présentement, il y a plusieurs pièges, il y a plusieurs effets néfastes. Comment est-ce qu'on peut faire pour régler ces effets pervers-là? Alors, on s'est donné quelques critères. On s'est dit que c'est important que les villes conservent une certaine autonomie, qu'il y ait une solidarité entre les municipalités, parce que toutes les villes n'ont pas les mêmes moyens, mais elles ont souvent les mêmes besoins. Donc, à travers toute cette réflexion-là,
Vous avez signalé aussi encourager certains comportements.
Absolument, parce que présentement, avec la voiture et tout, il y a vraiment il y a beaucoup de voitures en ville et il faudrait trouver un moyen de les réduire. Mais cette partie-là de notre proposition, elle est marginale, en ce sens qu'il ne faut pas que les villes comptent sur des tarifications écologiques, sur des taxes, des écotaxes. Parce que l'objectif de ces taxes-là, c'est que éventuellement on ne les applique plus. Ouais. On les applique plus puisque tout le monde a des comportements écologiques.
Ouais.
Mais le point central de notre réflexion, c'était aussi de regarder à l'international comment les municipalités se changent.
Uh-huh.
Et on a vu que dans plusieurs pays, il y a un impôt sur le revenu municipal. Donc, c'est à travers ça qu'on voudrait faire. On voudrait réduire considérablement les taxes foncières et compensé par une taxe sur l'impôt municipal, une taxe sur les revenus qui seraient redistribués dans les villes. Donc, à ce moment-là, il y aurait vraiment un respect de la capacité de payer des gens et on n'aurait plus cette pression sur la circulation immobilière dans les villes.
Oui. Et ça pourrait être plus progressif?
Ben, nécessairement, puisque si on se base sur les revenus des gens plutôt que la valeur de leur maison, donc on s'intéresse beaucoup plus à la capacité de payer les gens. Donc vraiment, c'est une solution qui nous semble beaucoup plus intéressante. Il y aurait toujours une composante par rapport aux valeurs des actifs, à la valeur des maisons, mais ce serait beaucoup moins important et les villes auraient ensuite la possibilité de pouvoir vraiment moduler et notre proposition, faudrait le dire tout de suite, la base, c'est qu'elle soit fiscalement neutre, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas à augmenter les revenus de la ville ou de les diminuer, mais de leur permettre de les percevoir d'une manière différente. Et du moment où ils ont en leur possession ces différents outils fiscaux, ils vont pouvoir décider comment ils souhaitent les utiliser pour que ce soit le plus juste possible, conférant les besoins et les moyens de leur ville.
Merci beaucoup, Evelyne. C'était assez rapide quand même parce que c'est une étude, même si elle n'est pas si longue que ça, il y a beaucoup de choses fort intéressantes dans l'étude. J'invite les gens à se rendre sur le site de l'IRIS. C'est quoi déjà l'adresse de l'IRIS?
Le site de l'IRIS, c'est iris-recherche.qc.ca. L'ensemble de nos publications sont disponibles gratuitement en ligne.
Dans cette note socio-économique, fiscalité municipale, peut-on faire mieux? Point d'interrogation. Merci, Evelyne.
Ça m'a fait plaisir.
Au revoir.
Et on s'en va en pause publicitaire pour revenir ensuite avec une entrevue avec Catherine Caron du CA d'Attaque Québec qui va nous parler des projets pour l'association pour l'année 2015. À tout de suite.
89.1.
Et c'est ainsi qu'un soir d'il y a 45 ans est née la radio en effet. Et depuis ce soir-là, un immense dialogue ne devait plus cesser de recouvrir la Terre. Un nouvel âge était né. Il y avait suffi de quelques pionniers.
Vous écoutez CKRL.
Vous voulez être efficace et écologique? Une adresse, quatre services sous le même toit. Comptabilité N Carrier prépare vos impôts, que ce soit pour les particuliers, les travailleurs autonomes, les entreprises, les gestions immobilières ou les organismes à but non lucratif. Vous êtes en retard? Pas de panique. Comptabilité N Carrier prépare vos impôts toute l'année durant et jusqu'à 10 ans de retard. Pour les entreprises, plusieurs services sont offerts. La gestion complète des payes, le calcul TPS-TVQ, la préparation des états financiers et plus encore. Services personnalisés et plus de 15 ans d'expérience. Comptabilité N Carrier est la clé de votre tranquillité. 418-529-0511, 885 3e Avenue.
L'événement Patrimoine vivant au goût du jour est l'occasion idéale pour découvrir autrement le patrimoine vivant. Musique traditionnelle électroacoustique ou encore avec une ambiance free jazz, les frontières musicales s'élargissent grâce à la fougue de nombreux artistes de Québec. Un rendez-vous les 23, 24 et 25 janvier, programmation complète sur le site du Musée de la Civilisation. Patrimoine vivant au goût du jour est organisé par le Centre de valorisation du patrimoine vivant avec l'aide financière de l'Entente de développement culturel entre la Ville de Québec et le ministère de la Culture et des Communications du Québec.
Amateurs de rockabilly et de psychobilly, nous avons le plaisir de vous annoncer le Rockabilly Showdown qui aura lieu à l'Agité le vendredi 30 janvier. Présenté par Québec City Rockabilly et par CKRL, cette soirée rassemblera le rockabilly sauvage et énergique de Danny Jukes and the Northern Stars, composé d'anciens membres des Alley Jukes, ainsi que le psychobilly infatigable des Lab Rats, projet de Johnny Toxic. En première partie, Alex Coupe de Ville, One Man Band Blues et Rockabilly. C'est un rendez-vous le vendredi 30 janvier à la JT, 251 rue Dorchester, dès 21h. Informez-vous sur la page Facebook de Québec City Rockabilly.
Au prochain tirage du loto 649, il y a un billet parmi tous les billets qui va valoir $1 million garanti. Et ça, c'est en plus du gros lot qui est évalué à 35 millions.
Depuis 2008, la mesure Première Ovation aide les talents émergents du Québec en leur donnant les moyens de créer, de profiter d'encadrement et de vivre leurs premières expériences professionnelles. Couvrant 8 disciplines artistiques, les actions de Première Ovation contribuent également à une meilleure diffusion des créateurs et favorisent l'accès au spectacle de la relève. Découvrez les programmes offerts sur premièreovation.com.
Vous écoutez CKRL 89.1.
À Marrakech, une colle gueule à Téhéran, et gondoles au Bangladesh, Toys R Us en Iran.
Un ouragan à Venise, du pétrole à Athènes, un prêtre sur la banquise,
un GI à Jérusalem. C'est le cocktail fatal.
Britney Spears au Vatican, Jeff Koons à Versailles, Bono dans les îles Caïmans et le Louvre à Dubaï.
Un pingouin à l'UNESCO, sous les dunes,
le quartier rouge à Rio et même un coca sur la lune.
C'est le cocktail fatal.
Un black à la Maison Blanche, Hollande à l'Elysée. Ben Laden sur la Manche, Le Pen chez Dieudonné.
Bétancourt en Colombie, Poutine au Groenland.
La tante de Gaddafi et un imam à Disneyland.
En coupe du New York Times, ma demoiselle en burqa entre chez McDonald's,
le Dolce Berlusconi
dans les bras d'une escort girl,
Al-Qaïda à Bercy,
le Vatican qui fait son deuil. C'est le cocktail fatal, on est pour pas banal. On s'aime, on se ressemble, on s'adore, on s'assemble.
Un César pour clavier.
On vient d'entendre. Je ne sais pas ce qu'on a entendu au juste, Marie-Christine.
Moi non plus, je
ne sais pas, mais vas-y. Bon. Il y a Catherine Caron qui est au bout du fil. Bonjour Catherine.
Bonjour Michel.
Ce sont des choses qui arrivent. Je crois qu'il y a un petit problème technique,
oui.
Mais en tout cas, je vais te poser la question. Qu'est-ce qui se passe du côté d'Attaque Québec?
Ah, ben il se passe pas mal de choses, en fait. On a eu une assemblée générale à l'automne fort constructive, bien fréquentée et tout, puis ça a continué de nous aligner un peu dans la même direction. Je dirais qu'on se concentre sur deux pôles, là. Le pôle éducation populaire, formation, conférence, qui a toujours été très important au sein de l'Attaque. L'Attaque, hein, c'est une association citoyenne où le cœur de l'affaire, c'est des citoyens qui essaient de comprendre l'emprise de la finance dans notre société et de comprendre comment l'économie est développée ou mal développée. Et donc, on a toujours fait un travail important à ce niveau-là là, pour être des citoyens nous-mêmes qui tentons de bien décoder le discours dominant et les alternatives qui sont possibles à ce qu'on nous impose, finalement, et de l'offrir aux autres, quoi.
Donc, concrètement, il y a des choses qui s'en viennent?
Oui, ben c'est ça. Sur ce pôle-là, on a toute une... renouveler un peu notre offre de formation, d'ateliers, de conférences. On offre, en fait, je pense, six thèmes différents. C'est intéressant parce que c'est des thèmes qui sont peu abordés par d'autres organismes. Par exemple, avoir un atelier sur la fiscalité où on essaie de comprendre comment dans notre rapport d'impôt le caractère inéquitable de notre système d'impôt se manifeste.
Oui.
Vraiment, là, avec le rapport, là. Bon, où est-ce que ça se passe?
Ça tombe bien, on parlait justement de fiscalité municipale avec Evelyne Couturier
c'est ça, on parle de provincial et,
oui.
et surtout Québec, là.
Oui.
Alors, un atelier très, très concret, là, pour voir comment l'injustice, en fait, fiscale se trouve à l'intérieur de nos rapports d'impôts, puis qu'est-ce qu'on pourrait changer pour que ce soit mieux. On offre aussi la formation du milliard de solutions fiscales de la coalition opposée à la tarification et à la privatisation des services publics.
Mm-hmm.
On a toujours aussi la formation L'Empire du libre-échange. Ça peut être soit des ateliers, soit des conférences. On est vraiment un des rares organismes à parler aussi régulièrement des enjeux du libre-échange pour les services publics et la démocratie.
Quand vous parlez de conférences, Catherine, c'est que les gens peuvent vous inviter?
C'est ça. À travers le Québec, il y a des groupes, des organismes qui nous invitent. On offre ça gratuitement. On demande seulement aux organismes qui sont capables de nous aider à défrayer les frais de transport ou d'hébergement s'il y a lieu. Mais à part ça, c'est gratuit. Alors, c'est vraiment... il y a toutes sortes d'organismes qui nous invitent et on espère qu'il y en aura encore beaucoup d'autres en 2015. Puis les autres thèmes, c'est austérité, paradis fiscaux, environnement et mondialisation. Et la deuxième grande activité qui est à l'horizon, justement, c'est un rapport à l'environnement. C'est une journée d'études sur l'économie verte.
Oui.
Ça, c'est intéressant parce qu'attaque, oui. Le mouvement Attaque International a une critique très intéressante sur l'économie verte et qui est pas très connue au Québec et qui est pas suffisamment portée, en fait, au Québec. Alors, on a décidé de faire cette journée-là avec le Centre Justice et Foi en collaboration. C'est notre deuxième collaboration avec eux pour un peu... développer un petit peu plus là, l'esprit critique sur ce qu'on appelle l'économie verte, une espèce d'économie qui vise essentiellement à redémarrer la croissance là, dans le contexte de la crise financière, l'après-crise financière,
oui.
Et qui a toutes sortes d'effets néfastes qu'il faut connaître et dont il faut débattre.
Je crois que vous allez venir à Québec aussi, c'est ça?
Ça, c'est pas très confirmé, non?
C'est pas très confirmé, non, OK.
Non, pas encore. Non.
Bon.
Non.
On va surveiller ça, attentivement.
Attends, je vais terminer sur la journée d'études parce que j'ai pas donné la date. C'est le 11 avril à Montréal.
À quel endroit?
À la Maison Bellarmin, 25 rue Jarry-Ouest. Ça va être toute une journée en avant-midi avec deux conférences et des extraits du film aussi La ruée vers le carbone de la documentariste Amy Miller. C'est un excellent film pour comprendre les marchés du carbone et pourquoi il faut questionner cette chose-là.
Oui.
On n'est pas très critique au Québec des marchés du carbone. En fait, on est plutôt en faveur et les groupes écologistes sont plutôt en faveur. Mais nous, à ATAC, on porte vraiment une critique à ce sujet-là. Alors, dans l'avant-midi, on va discuter entre autres de ça. Et c'est Dominique Bernier, qui est membre du CA d'ATAC Québec aussi, qui va faire la conférence principale pour nous expliquer c'est quoi l'économie verte.
Mm-hmm.
Et en après-midi, là, ça va être plus des ateliers pour être plus du côté des alternatives, de ce qui est possible de faire et qui serait beaucoup mieux que ce qu'on appelle l'économie verte au sens d'une économie liée à la croissance économique.
Ouais.
Et là, il va y avoir 5 ateliers proposés, parmi lesquels... un avec Claude Vaillancourt sur le libre-échange, qui va être le propos, ça va être grosso modo qu'on peut pas sortir de l'économie verte sans sortir du libre-échange. Ça, c'est quelque chose aussi dans l'attaque qu'on porte comme message.
Oui.
Puis un atelier avec Normand Mousseau sur la transition énergétique au Québec. Normand Mousseau était un des commissaires de la Commission sur l'avenir énergétique du Québec. Et là, c'est aussi un membre d'attaque. Et il va venir nous parler avec nous en atelier avec les participants de par quoi ça serait quoi là, les priorités au Québec pour avancer une transition écologique intelligente?
Écoutez, merci beaucoup à Catherine. Juste nous rappeler la date exacte de la journée?
La date, c'est le 11 avril.
Et comment les gens peuvent s'y inscrire?
Sur le site? Ben, faut toujours aller sur notre site web, en fait. Pour l'instant, l'inscription est encore ouverte, ça se dit. Mais le site, c'est québec.attaque.org.
OK. De toute façon, les gens peuvent vous écrire, peuvent vous dire, même si c'est pas encore ouvert, moi,
on
ça m'intéresse.
Voilà. Okay. Puis ils ne rateront pas l'information. Puis, ben, sinon, ce qu'on fait à TAC, il n'y a pas que ça. Là. On travaille intensément aussi dans trois coalitions.
Oui.
La coalition que j'ai mentionnée tout à l'heure là, sur les contre la tarification et la privatisation des services publics. On est toujours là, présent dans le comité solutions fiscales où Chantal Santerre nous représente et travaille très concrètement là, sur les solutions fiscales qui sont proposées. Puis on est toujours au RQIC sur les enjeux du libre-échange et dans la coalition échec aux paradis fiscaux.
Merci
ça
beaucoup.
Ça fait pas mal de boulot.
Oui, merci beaucoup Catherine. C'est tout le temps qu'on avait. On aurait pu continuer, mais bon, c'est les impératifs de la radio. Merci.
C'est que les adhésions vont bien, mais la période d'adhésion est toujours en cours. C'est qu'on invite les gens qui vous écoutent à
adhérer.
À adhérer, bien sûr, oui.
Parfait. Merci Catherine.
Merci Michel.
Au revoir.
Est-ce que mon micro fonctionne? Oui, c'est fantastique.
On avait un petit problème, n'est-ce pas?
Je suis de retour. Tout à l'heure, j'ai essayé de parler, puis on n'entendait rien. Donc, j'ai laissé la parole à Michel.
C'était un peu comique.
En tout cas, des petites magrées dans le studio. Chanson pour Victor Jara. Michael, tu nous as trouvé une chanson en hommage à un militant assassiné au Chili en 1973.
C'est un poète, chanteur. En fait, Victor Jara, il était assassiné sous le régime, la dictature de Pinochet au Chili. En 1973, j'ai trouvé ça dans mes CD. Je trouve ça vraiment intéressant. Ça s'appelle « Lettre à Kissinger ». Kissinger, qui était secrétaire d'État aux affaires étrangères, internationales, des États-Unis. Et malheureusement, ce monsieur des États-Unis appuyait beaucoup de régimes autoritaires, dictatures.
C'était un économiste, si je me trompe pas.
Je sais pas.
Puis il me semble qu'il est à l'origine des réformes.
En tout cas, il aimait beaucoup Machiavel, Kissinger.
Donc, je fais un peu un lien avec Charlie Hebdo. Je me dis, dans la catégorie des artistes assassinés, ben, les États-Unis en ont tué une couple avec bien les dictatures. Alors, voici.
Il y a des centaines de silences qui assassinent pendant des siècles et des siècles. Nos oreilles sont là pour nous tenir éveillés. Il y a des réveils matins qui sonnent comme des clairons. Il y en a peu qui chantent des berceuses. Je veux te raconter, Kissinger, l'histoire d'un de mes amis. Son nom ne te dira rien, il était chanteur au Chili. Ça se passait dans un grand stade, on avait amené une table. Mon ami qui s'appelait Jara fut amené tout près de là. On lui fit mettre la main gauche sur la table et un officier, d'un seul coup avec une hache, les doigts de la gauche à trancher. D'un autre coup, il sectionna les doigts de la dextre et Jara tomba tout son sang giclé, 6000 prisonniers criaient. L'officier déposa la hache, il s'appelait peut-être Kissinger. Il piétina Victor Jara, chante dit-il, tu es moins fier. Levant ses mains vides des doigts qui pinçaient hier la guitare, Jara se releva doucement, faisant plaisir au commandant. Il entonna l'hymne de l'unité populaire, repris par les 6000 voix des prisonniers de cet enfer. Une rafale de mitraillettes abattit alors mon ami, celui qui a pointé son arme s'appelait peut-être Kissinger. Cette histoire que j'ai raconté, Kissinger ne se passait pas en 42, mais hier, en septembre 73.
Eh bien, je suis sans voix.
Est tous sans voix. C'est très dur.
Je pensais pas, je connaissais pas cette histoire-là.
Oui.
Enfin. Merci, Michael, de nous avoir fait découvrir cette éprouvante chanson. Et on va maintenant écouter une entrevue que Michel a fait avec Yannick
Marcine. Oui, avec Yannick Marcine, un peu plus tôt aujourd'hui. J'ai oublié de mentionner quelque chose de très important. En début d'entrevue, je parle d'un ouvrage dont Yannick a fait le recensement de Marc-André Dilac, si je me rappelle bien. J'espère que c'est Marc-André son prénom. Et j'ai oublié de dire que c'était dans la revue Relations. Je tiens à le souligner parce que c'est une excellente revue, la revue Relations, et j'invite les gens à se la procurer.
Oui, on va mettre ça en lien dans notre blog. Et puis, l'entrevue que tu as fait avec Yannick Marcy, c'était à quel sujet?
C'est à propos de la tolérance. Est-ce que la tolérance est compatible avec la démocratie? Très bonne question, n'est-ce pas, dans la foulée de tout ce qui se passe actuellement.
Yannick Marcy, bonjour.
Bonjour.
Yannick, on a échangé, vous et moi, à quelques reprises l'an passé. Et ça me fait plaisir d'échanger à nouveau cette année. Je veux juste rappeler aux auditeurs que vous êtes économiste, mais vous ne vous intéressez pas qu'à l'économie.
Non, en effet.
on vous entend souvent dans les médias, mais je crois que... est-ce que je me trompe en disant que le média où vous êtes le plus fier d'intervenir, c'est l'itinéraire à Montréal?
Oh oui, tout à fait, effectivement. Donc, ceux et celles qui ne connaîtraient pas, c'est le journal de rue de Montréal qui a fêté ses 25 ans, je pense, cette année. Effectivement, je tiens une chronique dans tous les numéros et je suis particulièrement fier de pouvoir collaborer avec eux. C'est une super belle équipe qui fait vraiment des miracles parce que le problème d'itinérance, évidemment, est très, très important à Montréal.
Et non, mais ça fait partie de tout ce problème de tolérance, mais on va en venir à la raison pour laquelle je vous appelle. En fait, j'ai lu une recension que vous avez faite d'un ouvrage de Marc-Antoine Dilac, « La tolérance, un risque pour la démocratie », point d'interrogation, évidemment. Et je me suis dit, bon, dans le contexte, dans la foulée des événements terribles qui se sont produits en France, à la rédaction du Charlie Hebdo, mais aussi dans toute cette question qui ressurgit, parce que par la suite, il y a eu des attitudes haineuses envers les musulmans en France, mais ici aussi, on semble vouloir remettre de l'avant toute la question de la charte des valeurs. Oui. La question, au fond, que pose l'auteur, puis la question que j'ai envie de vous poser, c'est que est-ce que la tolérance, c'est un risque pour la démocratie?
Mais la démocratie, je pense, est un risque en soi. Hein? C'est-à-dire que on le voit, l'histoire le montre, même très, très proche de nous, que ça n'est jamais acquis, n'est-ce pas? Accorder les droits démocratiques, c'est-à-dire qui sont aussi des libertés, implique nécessairement qu'on risque de les dérives. Hein? On risque les dérives et donc on doit assumer ce risque. Alors la tolérance, c'est ce que Marc-Antoine Dilac prétend dans son livre, c'est effectivement un risque, mais un risque qu'on n'a pas le choix de prendre. Parce que c'est consubstantiel à la démocratie, en quelque sorte. On va dire, on ne peut pas avoir de démocratie sans tolérance et sans prendre ce risque-là.
Oui, mais il y a quand même une dimension qui s'ajoute, parce que ça va bien la démocratie quand on partage à peu près tous les mêmes valeurs.
Oui.
Mais quand on est confronté à des valeurs différentes, ça change passablement.
Absolument. Et je pense que la formule la plus importante de cet idéal démocratique, c'est d'avoir la force individuelle de supporter ces valeurs qui ne sont pas les nôtres, n'est-ce pas?
Ouais.
Qui peuvent même nous répugner ou nous déranger. Ou, si on prend tout le débat qu'il y a eu particulièrement en France, mais qu'on a importé en quelque sorte ici sur le port du voile par les femmes musulmanes, ça peut déranger. On l'a vu dans nos débats, hein, Mme Bertrand, Jeanne Bertrand, qui se disait inconfortable, indisposée à la vue de ces femmes-là. Or, c'est justement ça la tolérance en termes démocratiques, c'est d'être capable d'accepter ce qui nous répugne, si au plus fort là, du terme, là, évidemment, oui. Ce qui nous dérange, qui ne fait pas partie de notre système de valeurs. Et c'est pour ça que c'est un risque et que c'est un défi quotidien. Ça peut être vrai, là, en sens inverse, par exemple, ça peut être aussi d'accepter des personnes, des discours qui sont antidémocratiques. Ça fait partie de cette tolérance-là. Mais là, c'est fort en ketchup, n'est-ce pas?
Oui.
Accepter que la démocratie puisse être tolérante envers des discours qui sont contre elle-même. C'est l'extrême limite, en quelque sorte.
Oui, tout à fait.
Cette limite-là, évidemment, elle n'est pas infinie. C'est la même chose pour les discours de haine ou de... si on en revient à Charlie Hebdo, par exemple. Charlie Hebdo a été poursuivi par le passé par certains groupes religieux, notamment. On se rappellera que Charlie Hebdo, dans ses plus belles années, c'était surtout tous les catholiques qu'il frappait. Or, il y a plusieurs groupes fondamentalistes catholiques qui ont poursuivi Charlie Hebdo et la justice française a jugé que les caricatures, les propos subversifs que portait ou que publiait le journal, plutôt, ne dépassaient pas les bornes, en quelque sorte. C'était pas un discours haineux ou un discours incitant à la haine ou à la violence. On a dans notre système de droit des limites qui établissent cette tolérance-là, en quelque sorte. Donc, oui. Il n'y a personne qui peut inciter à la haine, par exemple, en droit canadien, criminel canadien, il y a des dispositions pour limiter le discours, la liberté d'expression, en quelque sorte, lorsqu'elle atteint la dignité d'une personne ou d'un groupe, lorsqu'elle incite à la violence envers ou la haine envers une personne ou des groupes. Donc, il y a des limites à la tolérance, mais elles doivent être les plus loin possibles pour permettre l'émergence de n'importe quel discours.
Mais là, je vais me faire l'avocate, je vous arrête, Yannick, je vais me faire l'avocate du diable, parce qu'il y a ceux qui disent, ben, ils ont juste à s'adapter à nos valeurs, ceux qui viennent vivre avec nous. Qu'est-ce que vous répondez à ça?
Ben, il y a un peu de ça, n'est-ce pas? Hein? Il y a un peu de ça. Mais le piège, je pense que c'est là où il faut faire très attention, le piège, c'est d'utiliser le mot « valeur hein? ».
Ouais.
Qui est un mot connoté, qui est un mot qui se définit, que chaque personne qui l'utilise le définit par elle-même. Alors, c'est pas des valeurs. Les valeurs, c'est pas un terme de droit, c'est pas inscrit dans les dans le code criminel. Ce sont justement les droits et libertés qui sont codifiés. Or, une personne qui émigre dans un pays, quel que soit ce pays, doit nécessairement se plier au droit au sens de légal, aux lois qui sont en vigueur, et jouir ou ne pas jouir des droits et libertés qui sont accordés dans ce pays-là. Mais là, il n'est pas question de valeur à ce moment-là. Hein? On peut dire que c'est une valeur d'être attaché à des règles de droit, aux droits et libertés telles qu'établies dans la Charte québécoise des droits ou la canadienne, mais ce ne sont pas des valeurs religieuses, morales, etc. Ce sont des limites juridiques que nous établissons pour le vivre ensemble. Et c'est, il ne faut pas céder à ce piège des valeurs, à mon sens. C'est ce qui a fait que, à mon humble avis, c'est ce qui explique en grande partie que le débat ait dérapé à ce point au Québec lors de l'épisode de la Charte des valeurs.
Oui. Peut-être que ce qui est le plus difficile, puis je peux, en fait, ce qui m'a frappé dans le texte, dans la recension que vous avez lue, que vous avez faite, c'est quand Dulac dit à un moment donné, les législations, les institutions étatiques sont culturellement teintées.
Oui.
On a beau dire, oui, on a des principes, on a des droits, mais il reste qu'elles se vivent à travers des institutions.
Tout à fait, tout à fait. Et c'est pas un élément très intéressant de son ouvrage, d'ailleurs, de sa réflexion, c'est de dire que on peut poursuivre un idéal de neutralité des institutions, et je pense que c'est important justement pour permettre la pluralité de l'expression des droits, des idées et l'exercice des droits. En revanche, il ne faut pas oublier qu'elles sont historiquement placées, ils sont culturellement et historiquement contextualisés. Nous héritons au Canada, au Québec, des Européens, bien sûr, que nous sommes à l'origine, qui avons colonisé ce territoire. Nous héritons donc de toute cette histoire-là, qu'elle soit un mélange d'ailleurs britannique et français en l'occurrence, mais qui pourrait remonter au fondement du droit latin, n'est-ce pas, sous la Rome antique. Ce qui fait en sorte, donc, pourquoi c'est important de tenir compte de ça, c'est qu'il y a un biais, qu'on le veuille ou non. Donc, on recherche ou non cette neutralité, il y aura toujours un biais qu'on cherche à amoindrir, mais qui est existant. Et ce biais-là, ben, il repose sur l'héritage judéo-chrétien, sur une conception de l'individu, des droits individuels, etc., qui peut heurter des personnes, des nouveaux arrivants, qui, ces personnes, transportent un bagage culturel historique qui est différent et qui peut rentrer en contradiction avec le nôtre. Et Black dit, et en cela je le suis complètement, c'est la raison pour laquelle on doit avoir des mécanismes comme les accommodements raisonnables, par exemple. Parce que notre héritage, donc nos institutions qui, malgré notre recherche de neutralité, sont teintées de ce contexte historique et culturel, vont à l'encontre d'autres conceptions de la vie politique, en quelque sorte.
Yannick Marcille, c'est ici qu'on doit s'arrêter. Je vous remercie beaucoup. Souhaitons que ça amène les gens à réfléchir effectivement à cette dimension-là des choses. Il faut toujours essayer de se mettre dans la tête de l'autre si on veut vraiment...
Voilà. C'est le sens même de l'empathie.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Tu peux voter, pétitionner, débattre à la télé ou gamberger sans te bouger, mais...
Vous avez reconnu la chanson thème de la chronique événementielle de Michael. C'est à toi.
Oui. Donc, un spécial cette semaine, on le fait en une minute pour laisser la place à l'émission qui suit, les Geeks contre-attaque. Donc, tous les détails, toute l'information, c'est sur le média réseauforum.org. Réseau en un mot, forum, tout ça au singulier en un mot, .org. Je passe vraiment vite, là. Lundi, il y a une projection qui s'appelle En transition 2.0 sur des mouvements citoyens dans le monde là, qui font des trucs comme, exemple, imprimer leur propre argent, créer de l'énergie de manière communautaire, etc. Mardi, cercle de parole à la galerie Sherpa. Donc, pratiquer l'art de parler et d'écouter avec intégrité. Mercredi 21 janvier, conférence des Amis de la Terre, radiofréquence, une menace à la santé sous-estimée, point interrogation. Donc, c'est un doctorant de professeur de l'Université McGill, qui est une sommité dans la question, qui va parler entre autres des compteurs communicants d'Hydro-Québec. Ensuite, mercredi 21 et jeudi 22, vous connaissez peut-être le programme Accès loisirs qui permet de rendre les loisirs de Québec accessibles aux personnes à faible revenu. Mère et Monde, l'organisme Mère et Monde à Limoilou vous permet de vous inscrire. Jeudi 22 janvier, conférence de Vivre en Ville, de l'organisme Vivre en Ville, ce qui s'intitule Ville nourricière, mettre l'alimentation au cœur des collectivités. Donc, je peux pas vous donner les détails, mais allez voir réseauforum.org pour tous les autres événements. Ça, c'est juste un échantillon. Oui, Marie-Christine.
C'est déjà terminé,
ben oui,
Michael.
Ben oui, il faut. Il reste 30 secondes.
Une petite vite cette semaine. Alors, on arrive déjà à la fin de l'émission et on va souligner la participation de toute l'équipe qui a rendu l'émission possible. Donc, elle a été produite cette semaine par Michael Lessard, Michel Monette et Étienne Blondeau. Animée par moi-même, Marie-Christine Aubin, Michel, Michael et Étienne, finalement. Hein? Et à la mise en onde, ben Michael, encore une fois, qui s'améliore de fois en fois, hein, ma foi. Ouais. Pour écouter donc en ligne nos émissions, pour commenter, visitez notre site legraindesableqc.wordpress.com où vous trouverez aussi un lien vers notre page Facebook. Demeurez à l'antenne pour écouter les Geeks contre-attaque sur les ondes de CKRL 89.1, la radio qui cultive vos goûts.
Téléchargez Le Grain de Sable sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes.
Amateurs de rockabilly et de psychobilly, nous avons le plaisir de vous annoncer le Rockabilly Showdown qui aura lieu à l'Agité le vendredi 30 janvier. Présenté par Québec City Rockabilly et par CKRL, cette soirée rassemblera le rockabilly sauvage et énergique de Danny Jukes and the Northern Stars, composé d'anciens membres des Alley Jukes, ainsi que le psychobilly infatigable des Lab Rats, projet de Johnny Toxic. En première partie, Alex Coupe de Ville, One Man Band Blues et Rockabilly. C'est un rendez-vous le vendredi 30 janvier à l'Agité, 251 rue Dorchester, dès 21h. Informez-vous sur la page Facebook de Québec City Rockabilly.
Au prochain tirage du loto 649, il y a un billet parmi tous les billets qui va valoir $1 million garanti. Et ça, c'est en plus du gros lot qui est évalué à 35 millions.
Depuis 2008, la mesure Première Ovation aide les talents émergents de Québec en leur donnant les moyens de créer, de profiter d'encadrement et de vivre leurs premières expériences professionnelles. Couvrant 8 disciplines artistiques, les actions de Première Ovation contribuent également à une meilleure diffusion des créateurs et favorisent l'accès au spectacle de la relève. Découvrez les programmes offerts sur premièreovation.com.
Vous écoutez CKRL 89.1.
Québec.
En direct des légendaires studios de Limoilou, CKRL présente le Geek Contre-Attaque avec Eric Lajoie, Simon Boucher, Philippe Jacques, Laurent Meur, Sabrina Cloutier, Simon Trudeau, Conan Arsenault et l'Omnipotent Mike J.
Alors, samedi le 17 janvier 2015.
Oh oui!
Ah, il faut que j'y pense à l'année. Hein. J'y pense pas tout le temps. C'est pas un réflexe. Là.
Ça va l'être en décembre. Oui, juste avant qu'on change.
Voilà.
Ah, ok. Ah, mon micro marche pas finalement.
Ben non.
Je m'entends dans le micro des autres, mais je m'entends pas dans mon micro.
Ah, pas petit. Donc, je récapitule. Nous sommes le 17 janvier 2015. Éric Lajoie, votre animateur, vous disait à quel point que sa vie était difficile de se rappeler. C'est quoi? Une année? Et ça, bien sûr, c'est normal. Il est quand même, d'une certaine manière, limité. Mon nom est Simon Boucher. Bienvenue au Geek